Donc 3 juin 2009, cours du Rav Binyamin Beressi, Shavuot, fête des semaines ou don de la Torah. Voilà, c'est à vous.
On commence tout de suite.
Ouais.
Amen. Alors, on commence. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur et madame Guetta qui nous accueillent ce soir chez eux avec cette abondance et qu'ils aient toujours la bracha dans leur maison.
Amen.
Et je vous remercie à tous de vous être déplacés et d'être venus ce soir pour participer à ce shiur. Donc sur Shavuot, Chag HaShavuot, la fête des semaines. Alors qu'est-ce que c'est exactement Shavuot? Est-ce que Shavuot c'est la fête des semaines ou est-ce que c'est le don de la Torah? Vous allez me dire c'est certainement les deux. Mais ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est qu'est-ce que ça signifie « Chag HaShavuot », la fête des semaines. Bien sûr que les semaines, on comprend que ce sont les semaines qui sont passées du Homer, les 7 semaines que nous avons comptées, mais on ne comprend pas quel rapport entre Shavuot et les 7 semaines qui sont passées. Donc c'est ce que Bezrat Hashem, nous allons essayer d'expliquer à travers le texte de nos Chachamim. Chaque fête comme Pessah, Chag HaMatzot, on comprend que c'est la fête des matzot, on mange la matza à Pessah, Chag HaSukkot aussi, c'est la fête des Sukkot des cabanes. Donc nous sommes dans la Sukkah pendant Sukkot, on comprend aussi. Chag HaShavuot, comme on a dit, c'est un peu plus difficile puisque les semaines sont les semaines qui sont passées. Ce ne sont pas les semaines de Shavuot, la fête des semaines. Shavuot est aussi appelé, dans le langage des Chachamim, Atzeret. Atzeret, ce n'est pas marqué dans la Torah Atzeret, puisque Atzeret dans la Torah, c'est plutôt Shmini Atzeret. C'est vrai que le Ramban Nachmanide nous dit que Pessah et Shavuot forment une longue fête et que les jours intermédiaires sont Chol HaMoed, demi-fête. C'est-à-dire que Pessah, c'est le premier jour de Yom Tov. Shavuot, comme le 7e ou le 8e jour de Yom Tov que nous avons à Pessah et à Sukkot. Et les jours entre Pessah et Shavuot, c'est un peu comme une sphira, comme un Chol HaMoed, comme une demi-fête. Qu'est-ce que cela veut dire, ce Shavuot, qui est aussi Matan Torah, le don de la Torah? Bien que, vous savez que Shavuot ne va pas tomber obligatoirement le jour du don de la Torah. Puisque à l'époque, pour fixer un jour de fête, pour fixer Rosh Chodesh, comme c'est le cas de ce soir, on regardait en fonction de la lune. Lorsque la lune apparaissait, la nouvelle lune, puisque comme les Chachamim nous expliquent, que le cycle de la lune est de 29 jours et demi, et donc au bout de ces 29 jours et demi, la lune disparaît, lorsqu'elle réapparaît, c'est à ce moment-là que 2 témoins vont venir témoigner au tribunal, dire « nous avons vu la lune » et on va fixer le jour même Rosh Chodesh. Les mois sont aujourd'hui, le mois du calendrier hébraïque, 29 ou 30 jours. C'est ce qu'on appelle un mois malé, plein, 30 jours, ou chasser, 29, qui est manquant, il lui manque ce dernier jour. Et donc, entre Pessah et Shavuot, nous dit la Gemara. Parfois, Shavuot, ça tombe le 5 Sivan. Parfois, ça tombe le 6 Sivan. Et parfois, Shavuot va tomber le 7 Sivan. Tout dépend comment on a fixé les mois. Puisque lorsque on fixait le Rosh Chodesh avec la lune, parfois, il y avait des nuages. Parfois, on ne voyait pas la lune. Et donc, on ne pouvait pas toujours fixer Rosh Chodesh comme on le fait aujourd'hui. Un mois de 29, un mois de 30. Parfois, les 2 mois étaient de 29, c'est-à-dire que le mois de Nissan était que de 29 jours et le mois de Iyar était aussi que 29 jours. Et à ce moment-là, les 50 jours puisque Shavuot, c'est le 50e jour après le lendemain de Pessah, donc ça va tomber le 7 Sivan. Si les deux mois sont pleins, 30 jours, 30 jours, alors ça va tomber le 5 Sivan. Et si c'est un mois qui est plein et un mois qui est manquant, comme aujourd'hui, nous avons un calendrier, chaque fois un mois c'est comme ci, un mois c'est comme ça, là, Shavuot tombera le 6 Sivan. Donc Shavuot est lié avec le don de la Torah, mais Shavuot ne tombera pas obligatoirement le jour du don de la Torah. C'est aussi quelque chose que l'on doit expliquer. À chaque fête, nous avons une lumière particulière de la fête, c'est-à-dire qu'on revit les moments de l'époque. Et comme, pas seulement qu'on les revit, mais ils existent dans le ciel, il y a un Sheva, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le soir de Pessah, cette lumière qu'on a eue le soir de Pessah revient chaque année à Pessah. Ainsi à Shavuot, ainsi à Sukkot, on va revivre Matan Torah. Et de la même manière que nous avons à Pessah dit que chaque juif doit ressentir comme s'il était sorti ce soir même d'Égypte, c'est-à-dire pas juste se sentir comme on est sorti d'Égypte, ça a d'autres implications puisqu'on est sorti d'Égypte pour une seule et unique raison, c'est pour pouvoir servir Dieu sur le mont Sinaï, comme c'est marqué « Ta'avdoun et Ta'elohim ala'a razé ». Donc si on est sorti aujourd'hui aussi encore, on se sent comme si on est sorti d'Égypte, c'est qu'on va obligatoirement recevoir cette Torah au bout de 50 jours. Alors, effectivement, c'est difficile parce que chaque jour de fête a une date particulière et que Shavuot n'a pas de date particulière. Il est en fonction des 50 jours. Ça peut être le 5, le 6 ou le 7. On a un exemple assez marquant. C'est Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol, c'est le fameux grand Shabbat avant Pessah. Parce que en Égypte, nous avons pris 4 jours avant le sacrifice du Corban Pessah, nous avons pris l'agneau qu'on devait regarder pendant 4 jours, voir s'il n'a pas de défaut, c'est le dîne de Bikour. Et il était attaché au pied du lit, comme c'est rapporté dans le Midrash. Et les Égyptiens auraient dû à ce moment-là déjà faire quelque chose contre les Bnei Israël. Et les Égyptiens n'ont rien fait. Donc on a marqué ce jour, qui était un début de la sortie d'Égypte, comme étant le Shabbat HaGadol. Pourtant, le Shabbat HaGadol, puisque nous sommes sortis d'Égypte un jeudi, et que donc le Korban Pessah était le mercredi, donc c'est vrai que Shabbat HaGadol, le Shabbat d'avant, ça tombe le 10 Nissan. Donc pourquoi on a retenu le Shabbat avant Pessah et on n'a pas retenu le 10 Nissan? On aurait dû retenir le 10 Nissan, même si ce n'est pas Shabbat. Alors que là, on va retenir Shabbat HaGadol, même si c'est bien avant, même si Pessah tombera, comme cette année, il est tombé vendredi soir. Shabbat HaGadol, c'est le Shabbat d'avant. C'est pas logique, ça devrait tomber le 10 Nissan. Là, les Mefarshim, le bar sur le Shulchan Aruch, nous explique que pour chaque fête, on ne peut pas décider nous-mêmes quel est le jour de la fête. Les Chachamim, et lorsqu'on parle des Chachamim, c'est bien sûr des Anshe Knesset HaGdola de l'époque, de la fin du premier temps, ont vu que le jour, ce n'était pas le 10 Nissan. Ce n'est pas parce que c'était ce jour-là, le 10 Nissan, comme le 15 Tishrei, mais c'est parce que c'était Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre Shabbat et ce jour-là où les Bnei Israël ont attaché l'agneau au pied du lit. C'est pour ça qu'on retient le Shabbat et on ne retient pas le 10. Donc pour chaque fête, on retient la date en général, la date du jour, et c'est ce jour-là que nous allons revivre les mêmes moments de l'époque. Pourquoi à Shavuot? On va marquer le 50e jour à partir de Pessah, et ce n'est pas lié à une date particulière. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, où la Gemara nous dit que veille de Yom Tov, veille de fête, on n'a pas le droit de faire une saignée. À l'époque, les gens, pour un peu réajuster la pression artérielle, donc mettaient une saignée. Et donc la Gemara nous dit que veille de fête, on n'a pas le droit de faire une saignée. Pourquoi ? Gzera, un décret à cause de veille de fête de Shavuot. Et qu'est-ce qu'il y a veille de fête de Shavuot ? C'est un danger ce jour-là de faire une saignée. Pourquoi c'est un danger ? La Gemara nous dit, il y a ce jour-là Zika ou Shmet Tavouar. Zika, c'est un shed, un démon, appelé Tavouar. Tavouar, qui égorge. Que si les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah, ce démon va les tuer. Alors ça, c'est vrai que ça nous rappelle au moment où les Bnei Israël se trouvaient devant la montagne, où, comme on sait, ils ont eu un moment de peur, de crainte. Et là, Dieu les a menacés. Et leur a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, là-bas sera votre tombe, c'est marqué. Et les Bnei Israël, ce jour-là, d'après nos sages, il y avait un chef d'un démon qui s'appelait Tabouar et qui était là à attendre. Est-ce que les Bnei Israël vont accepter la Torah ? Eh bien, la Gemara nous dit, que veille de Shavuot, aujourd'hui encore, ce démon est là parmi nous. Et donc, nous avons l'interdiction de faire une saignée. Et une saignée pour les autres jours de fête aussi, de peur qu'on fasse avant Shavuot. Ce qui nous montre aussi qu'aujourd'hui encore, en 2019, nous avons encore la même menace, ce même démon qui est là, et qui va attendre, est-ce qu'on va accepter la Torah le jour de Shavuot, ce qui nous montre qu'à Shavuot, c'est encore une fois le don de la Torah. Ce n'est pas juste ce que nous avons reçu il y a 3000 ans, mais on revit tellement l'événement qu'on a aussi le shed qui est derrière nous. Va-t-on accepter la Torah ou pas ? Cette menace que les Bnei Israël ont eue, et que s'ils n'acceptent pas la Torah, là-bas sera leur tombe, eh bien cette menace a malheureusement été une fois accomplie avec Korach. Dans l'histoire de Korach qui s'est mis contre Moshe Rabbeinu, Korach a d'une certaine manière renié le don de la Torah, puisque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu qu'au moment de Matan Torah, ils croiront en toi, puisque le jour de Matan Torah, comme dit le Rambam, ce n'est pas juste une histoire qu'on nous a racontée. Nous avons tous vu et entendu que Dieu a appelé Moshe Rabbeinu, l'a appelé dans la montagne, l'a appelé dans le nuage pour lui donner la Torah. Et c'est ce que nos pères nous ont transmis de génération en génération. Korach est celui qui a renié cela, puisqu'il a renié la force, le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Et donc obligatoirement, dès qu'il renie ce moment de Matan Torah, la terre s'est ouverte et Korach a été englouti. C'est là que s'est accompli encore ou la seule fois, « Sham tekvuratrem » là-bas, vous serez enterrés. Donc nous allons...
Quel rapport entre Zika et l'interdiction de faire des saignées ?
C'est-à-dire que, comme il y a ce démon, c'est un moment dangereux. Et donc, si le mazal, lorsqu'on est saignant d'un moment terrible, il peut, comme chaque moment dangereux, on doit faire attention. Nous avons, à propos de Shavuot, une grande machloquette, une grande discussion entre les Chachamim et les Sadducéens de l'époque. Nous avons dans la Gemara, dans le Talmud, plusieurs fois où les Chachamim se sont disputés, c'est-à-dire dans la compréhension des textes, avec les Sadducéens. Mais jamais la Gemara ne s'allonge autant qu'elle le fait à propos de Shavuot. Dans la Gemara de Menachot, Daf Samerhe 65. Nous avons un daf tout entier, une page recto verso, où la Gemara va nous rapporter cette fameuse machloquette, fameuse discussion entre les Sadducéens et entre les Chachamim. Quelle est leur machloket? Quand est-ce que nous devons commencer le compte des 7 semaines pour arriver à Shavuot? Dans la Torah, c'est marqué « Usfartem lachem, vous compterez pour vous, mimachorat ha-shabbat, du lendemain du Shabbat. » Ça veut dire quoi, du lendemain du Shabbat, on va compter 7 semaines? Les Sadducéens ont dit, peu importe quand est-ce que tombe Pessah, le Shabbat d'après, c'est-à-dire que ce soit un jour, 2 jours ou plusieurs jours après, le lendemain du Shabbat, le dimanche qui suit, on va compter 7 semaines. Et donc Shavuot tombera automatiquement un dimanche. Les Chachamim ont dit non. Mimachorat à Shabbat, du lendemain de Shabbat, ce n'est pas Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat de la création du monde, mais c'est le Shabbat, le jour de fête, le jour de Pessah. Et donc on va commencer à compter à partir du 2e jour de Pessah. Et donc si Pessah tombe au milieu de la semaine, Shavuot tombera aussi au milieu de la semaine, puisqu'il tombera comme un jour après, le 2e jour de Pessah. Et la Gemara nous raconte que les Chachamim ont fait pour cela par la suite. Il y avait des jours où on n'a pas le droit de jeûner ni de prononcer d'oraison funèbre. C'est à partir du 8e jour du mois de Nissan jusqu'à la fin de la fête où Itotav Chag Shavuot, c'est-à-dire que la fête de Shavuot a pu s'imposer, c'est-à-dire que la vie des Chachamim a été acceptée. Il aura fallu quand même du 8e jour jusqu'à la fin de Pessah, 2 semaines, où les Chachamim ont été en discussion avec les Sadducéens et ont essayé d'apporter des preuves ici et là à partir de quand on commence le compte des 7 semaines. Les Sadducéens, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a lancé un défi et leur a dit « S'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut apporter des preuves alors qu'il se présente, il y avait un vieux d'Agma Zaken qui est venu et qui a dit « Eh bien, Moshe Rabbeinu, il aimait les Juifs, Moshe Rabbeinu, Oev Israël. » Et donc, puisqu'il aimait les Juifs, eh bien, il aura voulu leur donner 2 jours de vacances. Et donc, c'est pour cela que, bien sûr, que Shavuot doit tomber un dimanche. Comme ça, il y a le Shabbat et il y a le dimanche. Alors que si ça tombe un autre jour de semaine, on n'aura qu'un seul jour.
L'origine des ponts, alors.
L'origine des ponts, comme dit, 2 jours. C'est assez étonnant que la Gemara rapporte cet argument des Sadducéens qui, la vérité, entre nous, ne vaut pas grand-chose. Moshe Rabbeinu, Oev Israël, alors on va transformer la Torah, on va la mettre un peu, la ranger comme on veut, pour que ça nous arrange et qu'on ait 2 jours de fête. Et pourtant, les Chachamim vont apporter des tas de psukim, des tas de preuves que le Mimachorat à Shabbat, ce n'est pas le Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat, c'est Pessah. Qu'est-ce qui se cache derrière cette machloket? Pourquoi les Chachamim ont tellement tenu compte de la vie des Sadducéens? C'est qu'en fait, les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent dire que nous, on ne peut pas inventer un nouveau compte de 6 jours et un 7e jour. Il faut qu'on revienne au compte de Maaseh Bereshit, de la création du monde. 6 jours et un 7e jour. Nous n'avons pas les forces de faire des nouveaux comptes. Tu as 6 jours de la création et un 7e jour qui était le Shabbat. Eh bien, tu vas compter ces 7 jours que Dieu a créés. Tu vas continuer à les compter, mais tu commences à partir du dimanche et tu comptes jusqu'au samedi. Les Chachamim, grâce aux preuves qu'ils ont apportées, comme c'est rapporté dans la Gemara où il y a plusieurs preuves, ont dit non, si la Torah nous demande de compter, si la Torah nous demande d'agir, c'est qu'il y a un compte qui n'existe pas sans nous. C'est-à-dire qu'un compte qu'on doit créer. On doit créer un nouveau compte de 7 jours. C'est vrai que ça va être un compte qui va ressembler aux 7 jours de la création, mais c'est un compte qui est donné à nous, aux enfants d'Israël, où Dieu nous donne cette possibilité, en fin de compte, de créer quelque chose. sans rentrer dans les détails, sans vraiment approfondir, juste une petite idée. Dans la Torah, c'est marqué « Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim v'taharetz » Car six jours, je traduis textuellement, six jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire six jours, il a créé? Ce n'est pas six jours, il a créé. C'est en six jours. Qui béchait chez Yamim, dans les six jours, il a créé le ciel et la terre, il s'est reposé le septième jour. Le pasouk, en vérité, de manière plus approfondie, nous dit Dieu a créé non, six jours et un septième jour. Il y a un chiffre 7, 6 et 1 que Dieu a créé. Et Dieu nous a donné à nous, les Bnei Israël, cette possibilité d'être aussi créateur, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, Tselem Elohim, et comme explique le Nefesh HaChaim, Tselem Elohim, pas Tselem Avaya, Tselem du nom de Adanut, c'est Tselem Elohim, Elohim, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Nous avons en nous la possibilité de créer, c'est ce que le Nefesh HaChaim dans son livre, Rabbi Chaim Volozhin, explique, que lorsqu'on fait une action ici, on va créer là-haut. Dieu nous a donné cette possibilité, entre autres, pendant la Sfirat HaOmer, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, un compte de 6 et de 1 en plus de 7, cette Shlemut, cette entité de 7, que nous allons, chacun d'entre nous, créer dans le compte de Shavuot. Donc ça, c'est ce que les Chachamim ont discuté avec les Sadducéens, et nous ont dit, voilà, nous avons la possibilité de faire quelque chose de nouveau. C'est pas comme les Sadducéens de compter les 7 jours de la création. Nous, on va fabriquer un nouveau compte de 7 jours. Alors maintenant, nous allons approfondir un peu plus qu'est-ce que c'est cette Sfirat HaOmer, ce compte de 7 jours, qui va nous mener à Shavuot, puisque comme nous l'avons vu, en fin de compte, Shavuot, même si c'est le don de la Torah, mais ce n'est pas lié à une date précise, c'est lié à la fin des 7 jours, au 50e jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shavuot 150 jours avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shavuot, comme nous allons voir, sans un travail de 50 jours, de 49 jours, de 7 semaines
c'est
avant.
C'est pas aussi d'une saison.
Pardon ?
On dit que c'est Chag HaKatzir. C'est pas aussi une saison.
C'est vrai que c'est aussi Chag HaKatzir. C'est vrai. Ah, oui. Ça, c'est mal. Un autre. Et Chagabikurim aussi. Alors, nous allons maintenant essayer d'approfondir la Sfirat HaOmer, le conte du Homer. Le Homer, c'est quoi le Homer? On compte Al Sfirat HaOmer. C'est quoi le Homer? Alors, on reprend le verset de la Torah. Usfartem lachem. Mimachorat Shabbat, miyom aviachem et omer atenufa. Vous compterez à partir du lendemain de la fête, à partir du moment où on va approcher, apporter au Beth Amikdash le omer. C'est quoi le omer? Le omer, c'est une offrande. Une offrande qu'on a portée le deuxième jour de Pessah au Beth Amikdash, au temple. Une offrande qui était à base d'orge. Omer, c'est une mesure, rien de plus. Omer, c'est une mesure. C'est la même mesure que le fameux Asirit Haefa, le dixième de Haefa. C'est la même mesure que la quantité de farine qu'on a besoin pour prélever la Chala. C'est ça le Omer. Il y avait une offrande du Omer qu'on apportait au Beth Amikdash. Et grâce à cette offrande, on pouvait consommer la nouvelle récolte. Jusqu'à ce jour-là, on ne pouvait pas commencer, on ne pouvait pas manger la nouvelle récolte, ce qui avait poussé cette année, la récolte de blé. On va compter à partir du Homer. Ça veut dire quoi, compter à partir du Homer? C'est juste un point de départ. Au lieu de nous dire, tu comptes à partir de Machorat Shabbat le deuxième jour, tu risques peut-être de te tromper, c'est quoi le deuxième jour? La Torah, elle te précise le jour où tu vas apporter le Homer. Quel rapport entre le Homer et le compte que nous faisons ensuite? De plus, la Torah termine lorsqu'on arrive à 50e jour, Vikraftem, Mincha Chadasha Lachem, vous apporterez une nouvelle offrande à Dieu. Et cette fois-ci, c'est l'offrande qu'on a portée à Shavuot, les deux pains qu'on a portés à Shavuot, qui étaient cette fois-ci de blé et plus d'orge. Est-ce que le conte du Homer est lié à cette offrande de Homer ici et celle de Shavuot, c'est ce qui est marqué dans la Torah, on fait un compte et on va dire la bénédiction Al Sfirat Homer, le compte du Homer. On est à tant de jours au Homer. Quel rapport avec le Homer? Qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a de ce Homer, de cette offrande que nous n'avons même plus aujourd'hui? Et malgré tout, on continue à faire ce compte de Homer. Vous connaissez certainement ce que nous dit le Chinuch, un des Rishonim, Rabbi Aaron Alevi, le Réa, qui dans son livre, qu'on appelle aussi en français les 613 commandements, le Chinuch, va nous expliquer un petit peu, à un niveau le plus simple, une raison, peut-être une raison, et encore c'est peut-être une raison de chaque mitzvah et mitzvah. Alors il nous dit ici la mitzvah du Homer, c'est quoi cette mitzvah? Parce que tout Israël n'est là que pour la Torah, et que pour la Torah, le ciel et la terre ont été créés. Alors, il y a beaucoup de psoukim. Je ne vous rapporte pas tous les psoukim, vous les connaissez. Si ce n'est mon alliance, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a été libéré d'Égypte, pour que l'on puisse servir Dieu sur cette montagne, c'est-à-dire recevoir la Torah. Et donc, nous dit le Chinuch, puisque on aspire à ce jour-là, qui est le don de la Torah, Dieu nous a demandé de compter les harot benafshenu pour montrer en nous-mêmes, c'est-à-dire un peu pour se montrer soi-même. Ce n'est pas lui qui a besoin qu'on compte. C'est pour nous-mêmes. Lorsqu'on va compter, on va se montrer à nous-mêmes. Combien on attend avec impatience ce grand jour qui est le jour du don de la Torah. Un peu comme l'expression du verset qui dit que Eved ishaftzel, comme un esclave qui est un peu fatigué, qui attend, qui cherche de l'ombre. Et donc on va compter, savoir quand est-ce que on va sortir, l'esclave qui va sortir et qui va être libéré. Donc nous aussi on va compter pour savoir quand est-ce qu'on arrive à ce grand jour-là. Parce que ce jour-là, ce compte va nous montrer combien on est attaché à ce jour. Et donc c'est pour cela, dit le Chinuch, qu'on ne va pas commencer un compte à rebours. Parce que théoriquement, on aurait dû compter à rebours. Combien on a de jours qui nous séparent du don de la Torah? 50, 49, 48, et un jour, voilà, on y arrive à Matan Torah. Pourquoi on ne compte pas à rebours? Dit simplement le Chinuch, parce que ça serait trop. C'est-à-dire qu'arriver le lendemain Pessah, on aurait un compte de 50, 49, 48, c'est trop. C'est-à-dire, on attend tellement que si on avait ce chiffre 40-40, c'est trop avant nous. Prenons un exemple, on serait découragé. Prenons un exemple. Lorsque quelqu'un, Bar Minan, malheureusement, doit passer un an, deux ans en prison, on est d'accord qu'il ne va pas compter, il me reste un an, 364 jours. Un an, 363 jours. Un an, toi, avec... Non, il ne va pas compter comme ça, il va se décourager lorsqu'il va voir Minan. Il va dire un jour est passé, deux jours est passé, une semaine est passée, un mois est passé, un an est passé. On avance vers le but, mais de cette manière, pour ne pas être découragé à l'avance. C'est un peu la même chose, dit le Chinuch. C'est-à-dire que ça nous montre aussi que 48 qui nous séparait de la Torah, 49, ça serait trop pour le Bnei Israël. 49 jours avant le don de la Torah, on serait découragé. Alors, c'est vrai que le Chinuch posera la question, alors pourquoi au milieu on ne change pas? Lorsqu'on approche des unités, on devrait après changer un compte à rebours. Il dit, bon, les Chachamim n'ont pas voulu faire deux comptes, commencer comme ci, ensuite changer. Mais c'est vrai que théoriquement, on compte comme ça, et puis après, un peu comme celui qui est en prison, eh bien, lorsqu'arrivent les derniers, eh bien, il va compter maintenant un compte à rebours. Et à la fin, combien il lui reste d'heures, combien il lui reste de minutes, de secondes, et ça y est, il est libéré. Mais les Chachamim n'ont pas voulu changer ce compte. Mais l'esprit... Ce que nous dit le Chinuch ici, c'est que nous avons un compte qui nous sépare de Matan Torah. On va compter pour montrer combien on est pressé, combien on veut arriver au don de la Torah. Alors c'est vrai aussi qu'il posera la question, pourquoi on n'a pas commencé à compter à partir de la sortie d'Égypte, du premier jour, puisqu'en fin de compte, c'est la sortie d'Égypte pour Matan Torah. Alors il répond qu'on n'a pas voulu mélanger un petit peu les... Nianim les Smachot, là on est sorti d'Égypte, on commence à partir du lendemain, mais c'est vrai que théoriquement, le compte est à partir de la sortie d'Égypte et pas vraiment du compte du Homer. Alors le Chinour nous explique en partie, mais ne nous a pas tout expliqué, parce que ça ne répond pas pourquoi le Homer, d'après ce qu'il a dit, ça serait vraiment depuis la sortie d'Égypte. Alors je vous propose aussi une autre explication qui est rapportée dans les Mefarchim, les commentateurs, qui disent qu'en vérité, il y a quelque chose dans la Sfirat Homer qui est un peu plus profond. Nous avons un pasouk dans la Torah que vous êtes certainement posé la question, il est un peu difficile à comprendre. Dans l'histoire de Yaakov Avinu, qui a voulu comme femme Rachel, il a proposé à Lavan, qui lui a dit, si tu veux ma fille, qu'est-ce que tu mets? Eh bien, il a proposé de travailler 7 ans. Toujours le chiffre 7 qui revient, 7 ans. Pourquoi Yaakov Avinu, il a proposé 7 ans? 7 ans à rester chez Lavan, il aurait dû lui dire un an, une semaine. Il y avait quelque chose dans les 7 ans, toujours ce chiffre 7. Et ces 7 ans, nous dit le verset, sont passés kiyamim achadim, comme quelques jours, tellement be'avato, tellement qu'il aimait Rachel. Alors est-ce que vous comprenez ce pasouk? Ça devrait être le contraire. S'il aime Rachel, il veut se marier avec elle, ces 7 ans, ça devrait être une éternité pour lui. Au contraire, il aurait dû dire que ça a été comme une éternité pour lui, comme je ne sais combien d'années. Non, ça a été comme quelques jours. Le fameux Rabbi Aaron Kotler.
Parce qu'on vit d'espoir.
Pardon?
Aussi. Parce qu'on vit d'espoir aussi. Et comme il l'a côtoyé tous les jours, il y a cette attente exaltée qui n'est pas non plus une punition. C'est une préparation à un couronnement.
C'est vrai. Là, vous utilisez déjà un mot qui va vous faire dans la réponse. Alors, le Rav Aaron Kotler dit que lorsque Yaakov Avinu allait se marier avec Rachel, ce n'était pas juste un mariage amoureux. C'est que Yaakov Avinu a senti que c'était avec Rachel qu'il allait construire le peuple d'Israël. Et pour cela, Yaakov a senti qu'il avait besoin d'une préparation. Et donc cette préparation, il a pensé qu'il fallait 7 ans de préparation pour pouvoir se marier avec Rachel. Et donc ces 7 ans n'ont pas été juste 7 ans d'attente qui l'ont séparé du mariage, mais ont été 7 ans de travail, de préparation. Et donc jour après jour, Yaakov s'est construit pour pouvoir ensuite créer Am Israël et les 12 tribus.
Il tombe sur les rats.
Comme les 40.
Il tombe sur les rats, ensuite il reprend Rachel. Mais il a construit et avec Léa et avec Rachel en fin de compte. Et donc, ce que les Mefarshim nous expliquent, c'est que Sfirat HaOmer, c'est un peu la même chose. Sfirat HaOmer, ce n'est pas 49 jours qui nous séparent simplement de Shavuot. Sfirat HaOmer, c'est 49 jours qui vont nous construire pour pouvoir nous permettre d'arriver à Shavuot, qui est en fin de compte que le 50e jour de notre compte et pas une date particulière. De la même manière que si on dit à quelqu'un, je vais te donner, au bout de 10 semaines, je te donnerai une grosse somme d'argent. Voilà, je te donne 100 000 shekels dans 10 semaines. Il a travaillé. 100 000 shekels dans 10 semaines. Vous imaginez bien que chaque semaine, c'est long pour lui. Une semaine, il attend que se terminent les 10 semaines pour recevoir son argent. Mais si on lui dit, tu sais, chaque semaine, tu reçois 10 000. Alors chaque semaine, il prend 10 000. Il attend une autre semaine. Il les vit différemment, ces 10 semaines. Puisque c'est 10 semaines où il a reçu à chaque fois, où ça a construit ce patelin de 100 000. Donc, Sfirat HaOmer, pour répondre à la question du Chinour, pourquoi on ne fait pas un compte à rebours, c'est parce qu'on ne va pas seulement compter les jours qui nous séparent de Shavuot, on va jour après jour, semaine après semaine, se construire, comme nous allons le voir, dans quel domaine, pour pouvoir être prêt à recevoir la Torah, qui, encore une fois, comme on l'a dit au départ, ne tombera que le 50e jour de ce compte et ne tombera pas une date précise. Et même si le 50e jour de ce compte tombera le 5 Sivan, Alors que le don de la Torah n'était pas le 5 Sivan, il était le 7, entre guillemets, et pas le 6 non plus, comme nous allons le fêter cette année, le 6, c'était le 7. Pourtant, on pourra dire que c'est le jour du don de la Torah, parce que cette année, après notre préparation de 50 jours, c'est le jour où on reçoit la Torah.
Comme dans Hanouka, Alim Bakodesh, je vais vous dire. Pourquoi on n'utilise pas cette alimentation ?
Dans le conte, est-ce que le conte a une kdoucha pour qu'on puisse dire 1, 2, 3, qu'on monte dans le... C'est dans Hanouka, vous allumez quelque chose. Donc, vous êtes ma'alim dans une autre... Là, c'est vrai qu'on va être ma'alim dans notre travail. Mais je ne sais pas si ça répondrait pour le conte lui-même, d'arriver à ma'alim Bakodesh et qu'on ne fasse pas dans le conte. Parce que le conte en lui-même, il n'a pas de kdoucha. Si ce n'est le travail que l'on fera ce jour.
C'est pas à four. Si j'ai oublié d'allumer la quatrième bougie, je peux allumer la cinquième. Si j'ai oublié de compter la quatrième, je ne peux pas compter la cinquième.
C'est vrai, parce que là, c'est par rapport à un autre dîner. C'est que ces 49 jours doivent être 49 jours tmimot, un seul groupe de 49. Parce qu'on ne voit pas.
Le compte a une certaine kedusha.
Je ne vois pas la kedusha dans le compte, parce que c'est abstrait, un compte. C'est un compte, il n'y a pas quelque chose qui. Je ne sais pas s'il y a une kedusha dans le compte. Donc notre conte du Homer, d'après cette explication, on comprendra maintenant pourquoi on commence à partir du Homer. Le Homer, c'est le Mahal Bema, c'est-à-dire la nourriture de la bête. Ce qui est un peu le niveau, comme c'est rapporté dans les Midrashim, le niveau du peuple d'Israël en sortant d'Égypte, où il se trouve au 49e degré d'impureté. Donc il se trouve, par rapport à l'homme parfait, Adam HaShalem, il se trouve au niveau de la bête. Et donc, le Homer est cette offrande qui est d'orge, de Mahal Behema, de nourriture de bête. Et à partir de cette offrande, on va s'élever pour arriver à être l'homme parfait. Et à ce moment-là, on arrivera à Shavuot, qui est la nourriture de l'homme, c'est-à-dire les pains de chitim de blé. À ce moment-là, le conte du Homer est effectivement un conte par rapport au Homer, par rapport à ce niveau duquel on commence, on départ, et on va arriver vers ce qui est le Mahal Adam. On ne comptera pas non plus aujourd'hui, on est le deuxième jour, le troisième jour. On compte aujourd'hui ces deux jours, trois jours. Parce qu'il n'y a pas de deuxième jour ou de troisième jour. C'est un conte que nous allons nous-mêmes fabriquer. C'est-à-dire un conte que nous allons créer. Un conte que nous un travail que nous allons faire. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est le deuxième jour. Le deuxième jour de quoi? Par rapport à quoi? Aujourd'hui c'est deux jours. C'est-à-dire deux jours, ce n'est pas le deuxième jour. Parce qu'il n'y a pas de deuxième jour. Peut-être que si on avait compté comme les Sadducéens, on aurait pu compter le deuxième jour, le troisième jour, puisque c'est quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire les sept jours de la création. Mais là, on va compter deux jours, trois jours par rapport à notre travail. Alors, les sept semaines, pour un petit peu rentrer dans le chiffre 7, on peut le dire dans différentes langues, comme on dit. On peut utiliser les termes de la Kabbalah, dire le Chesed, Moura, etc., comme c'est marqué aussi dans les Sidourim. Mais on peut aussi utiliser des termes qui sont plus proches de nous, comme c'est marqué dans le verset « Lecha Hashem, Agdoula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzar, Veot » qui ont aussi une explication simple, c'est-à-dire la Gdoula, la grandeur, la Gvura, la puissance. Même si Chesed et Gvura et Tferet, ça veut dire exactement la même chose. Donc la grandeur, la puissance, la gloire. Ce conte de 7 fois 7 est un conte des fameuses sept midot, des sheva midot, qui sont aussi les sept sphirot. On ne parlera pas de chokhma binadam, on ne parlera pas de sechel de la tête, on parlera de l'action de l'homme. Les sept midot, c'est un peu les sept manières avec lesquelles on réagit vis-à-vis des autres. On peut réagir avec bonté, avec chesed, on peut réagir avec dureté, on peut réagir avec... Il y a différentes manières qui sont regroupées lorsqu'on remonte aux racines. Or, Chesed, Moura, etc., qui sont aussi les sept midot, les sept forces avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé son monde, il a créé avec le chesed, la gvoura, la tiferet. Et comme Dieu nous a donné cette possibilité aussi de créer, comme lui a créé, donc on va nous aussi arranger en nous-mêmes ces sheva midot, ces sept midot. Et on va compter sept groupes de sept, qui sont aussi toujours, comme on voit dans les sidourim, marier le chesed du chesed, la gvoura de la gvoura, et on va essayer à chaque fois d'arranger ces points particuliers. On va compter des jours. Qu'est-ce que ça veut dire des jours? Des jours de quoi? Alors c'est évident que si on parle de jours, on ne parle pas des jours de l'homme, on parle des jours de Dieu, de ce que Dieu attend comme jour, de ce que Dieu attend de nous. Comme c'est marqué que Akadosh Baruch Hu donnera à chaque tzaddik 310 olamot, mondes, dans les temps futurs. D'où est-ce qu'on l'apprend? L'anchil ou aveyesh. Et yesh, c'est 310. Mais 310 quoi? C'est pas marqué. Mais on comprend que si Dieu va donner 310, il va donner dans la monnaie de Dieu. Et donc comme dans la monnaie de Dieu, c'est dans les mondes spirituels, donc ça sera 310 mondes. C'est comme ça que les chachamim ont compris. Donc les 7 jours que nous allons compter sont aussi des jours de Dieu, des jours de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dans la préparation du don de la Torah, et entre parenthèses, le Shai, c'est aussi la même gématria que Homer. Dans la préparation de Shavuot, il y a un point très important que nous avons lu dans les versets, qu'on lira aussi à Shavuot, que pour pouvoir mériter le peuple d'Israël de recevoir la Torah, on doit former un. Vaichan Sham Yisrael. C'est-à-dire bien qu'avant le verset parle au pluriel, tout d'un coup le verset parle au singulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tout d'un coup un. Notre travail n'est pas un travail vis-à-vis de nous et Dieu, de se parfaire dans l'accomplissement de nos mitzvot vis-à-vis de lui, mais c'est un travail vis-à-vis de notre prochain. Parce que nous avons besoin d'arriver à Shavuot comme un seul, un. Le Klal Israël. La Torah, comme dit le Maharal de Prague, n'a pas été donnée aux patriarches parce que les patriarches étaient des yichidim, des particuliers. La Torah a été donnée au Klal Israël, à l'ensemble, à une entité, Am Israël. Et pour cela, on a besoin d'arriver avant Shavuot à être appelé Am Israël. Notre travail va être un travail vis-à-vis de notre prochain à travers ces midot dans lesquelles on réagit avec notre prochain, Chesed, Gvoura, etc. C'est pour cela que les élèves, les fameux élèves de Rabbi Akiva sont morts, particulièrement dans cette période. Vous vous êtes certainement posé la question, comment se fait-il que l'on garde ce deuil des élèves de Rabbi Akiva jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il est arrivé aussi beaucoup de malheurs dans le peuple d'Israël et on n'a pas gardé jusqu'à aujourd'hui un deuil particulier? Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, vont nous interdire de célébrer des mariages jusqu'au fameux Lag BaOmer, vont nous interdire d'écouter de la musique, de se couper les cheveux, de se raser. Tout ça, pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Okay, c'est vrai que c'est un grand malheur, mais pourquoi ce malheur nous accompagne-t-il encore? S'il nous accompagne, c'est qu'il a eu des conséquences sur notre vie d'aujourd'hui. Je vous rapporte là un enseignement que le Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, avait souvent m'expliquer, souvent rapporter. Vous savez qu'à l'époque, Rabbi Akiva pensait, comme dit le Rambam, mais pas seulement il pensait, précisait le Rav Moshe Shapira, il pensait que Bar Korba était le Mashiach. Bar Korba, Ben Kuziba aussi, qu'il appelait Ben Kuziba du mensonge, était le Mashiach. Lorsque Bar Korba a été tué, Rabbi Akiva et les sages de son époque ont compris qu'il n'était pas le Mashiach. Le Rav Moshe Shapira a expliqué que ce n'est pas que Rabbi Akiva s'est trompé, tout simplement parce que Rabbi Akiva ne peut pas se tromper. Parce que si Rabbi Akiva, qui était un des maillons de la transmission de la Torah, s'est trompé sur ce point-là, ça voudrait dire qu'il a pu se tromper sur un autre point aussi, alors que la Torah que nous avons aujourd'hui n'est plus une Torah parfaite, une Torah émite. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, Bar Korba était le Mashiach, si Am Israël avait mérité. Puisque à cette époque-là, Am Israël ne l'a pas mérité, Bar Korba n'a plus été le Mashiach, mais au début, il l'était. Lorsque les élèves de Rabbi Akiva sont morts, pourquoi c'est marqué « Lonagu kavod zelazé » ? Ils ne sont pas respectés les uns les autres. Alors bien sûr, ça a à comprendre à un autre niveau. Ce n'est pas nous, avec notre voisin, nos amis, qui ça veut dire le respect, puisqu'on parle ici de grands, de Tanaïm, qui étaient marqués donc dans la Mishnah, qui pouvaient, si déjà ceux de la Gemara pouvaient faire revivre les morts, alors bien évidemment que les Tanaïm étaient à un niveau beaucoup plus élevé. On parle de géants de Torah. Et si Rabbi Akiva est monté avec les trois autres Rachamim dans le fameux Pardès, c'est parce que Rabbi Akiva voulait amener ce monde au Tikkun. Ça y est, il voulait amener le Mashiach et que le monde soit entièrement réparé, arrangé. Rabbi Akiva n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Expliquer le Rav. Parce que Rabbi Akiva s'est retrouvé tout seul. Il n'avait pas le support de ses élèves, de ses 24 000 élèves. Et à lui tout seul, il ne pouvait pas tout porter. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas réussi. Lorsque les élèves de Rabbi Akiva sont morts, le Gaon de Vilna nous dit que vous savez que le monde a été créé pour 6000 ans. Il y a eu 2000 ans de Tohu, de vide. Tohu Vavohu, 2000 ans de Torah. Et 2000 ans où nous attendons le Mashiach. Au bout de 6000 ans, le monde s'arrête, comme on l'a déjà parlé ici. C'est-à-dire dans 200 et quelques années, le monde se terminera. Il n'y a plus de monde. Il reviendra à Tohu Vavohu. Personne ne vivra au-delà des 6000 ans. C'est le plan divin et ensuite il y aura le 7e millénaire qui sera le Olam Haba. Lorsque Rabbi Akiva, nous dit le Gaon de Vilna, ses élèves sont morts, alors qu'il était dans une phase de la fin des 2000 ans de la Torah, le monde est revenu à Tohu. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Il est revenu à Tohu. Et lorsqu'ensuite Rabbi Akiva a été chercher 5 Chachamim dans le sud, Rabbi Menachem Mendel Mishkelov, un des élèves du Gaon de Vilna, dit que dans la paracha de Hazinu, c'est marqué Ube Tohu Yelel Yeshimon. Et dans le Tohu Yelel Yeshimon, Yeshimon, c'est le Rashi Tevot de Yossi, Shimon, Meir et Yehuda, Yeshimon et l'autre, et Nechemia, qui sont les 5 élèves mentionnés dans la Gemara de Yebamot, les fameux Zikne Darom. Dans le Tohu, ce sont ces Chachamim-là qui ont ensuite ramené la Torah. Mais il y a toute une Torah qui s'est perdue, qui a été la Torah qui est revenue à Tohu. Et c'est un peu comme une destruction du Beth Amikdash. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, le deuil des élèves de Rabbi Akiva est maintenu. Parce que le monde, s'il avait continué avec les élèves de Rabbi Akiva, le monde n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Puisqu'on est revenu à cette phase de Tohu, donc on a perdu quelque chose. Et ce que nous avons perdu, on marque le deuil encore jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Rabbi Akiva vient trouver ses élèves, les nouveaux, il leur dit « Faites attention et ne soyez pas comme les premiers qui ont eu « Aïn tsara zebazé », c'est-à-dire un œil tsara étroit l'un vis-à-vis de l'autre. » Qu'est-ce que ça veut dire « Aïn tsara » ? Dans la Gemara, il y a marqué qu'ils ne sont pas respectés les uns les autres. La Gemara donc nous explique ici, dans ce deuxième enseignement, pourquoi ils ne se sont pas respectés. Parce que ils étaient Aïn Tsara. Ça veut dire quoi Aïn Tsara ? C'est-à-dire bien sûr qu'on était tous dans le Beth Amidrash et qu'on voulait tous étudier. Mais je voulais, moi, être plus performant que lui. Ce qui me dérangeait, c'était la Torah de l'autre. Et comme ça, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Comme ça, il y a un manque dans la Torah, puisqu'il faut une Torah de klal. Il faut au contraire faire partager notre Torah, que ce que je sais, tu le saches aussi. Si je veux garder quelque chose et ne pas te le donner, c'est que je veux que ma Torah soit une Torah de yachid, de particulier. Et donc automatiquement, on n'a plus droit à cette Torah, puisqu'on ne forme plus à Israël un seul peuple, et là les élèves de Rabbi Akiva sont morts.
Pourtant, la Gemara reconnaît le Kinat Chachamim.
Alors, Kinat Chachamim, c'est-à-dire, si lui, là, je veux être aussi comme lui. Mais pas que j'ai moi et que lui, il n'est pas. Donc, négliger la Torah de l'autre. Aïn Tsara, ne pas vouloir que lui ait autant que moi, il y a un manque dans cette unité qui éclate l'Israël, qui ne nous permet pas d'avoir la Torah. Bien sûr.
Que dans le Kodesh.
Oui, que dans le Kodesh, là. En vérité, c'est une autre mitzvah. Je vais vous dire, c'est pas vrai de dire que c'est que dans le Kodesh.
Exactement,
vous avez raison.
Exactement, parce que le monde n'est pas parce la saucisson qu'on coupe en tranches. Si on le respecte dans le Kodesh, on le respecte pour tout.
Le Ramban Nachmanide explique que ce qui est marqué dans le verset « Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même », Nachmanide dit « C'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même, il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas aimer l'autre comme toi-même. » Qu'est-ce que ça veut dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Nachmanide, le Ramban, dit « C'est pas marqué « Ve'afta et reacha, mais l'ereacha, à ton prochain ». C'est-à-dire, ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu dois aimer pour ton prochain comme toi. C'est-à-dire, tu dois vouloir pour l'autre autant que tu veux pour toi. Ça, c'est possible. De dire, tu dois aimer l'autre comme toi, c'est pas possible. Le Ramban rapporte que le fameux Rabbi Akiva qui dit, ve'ahavta le'reacha kamocha, Rabbi Torah, lui-même Rabbi Akiva, il dit que quand tu es dans le désert et que tu as une seule gourde, à qui tu donnes? À l'autre ou à toi? Tu la gardes pour toi, même s'il y a une seule gourde et que ça ne suffit pas pour deux. Ta vie est prioritaire à la vie de ton prochain et tu vas boire toi et tu ne lui donneras pas. Pourtant, si tu aimeras l'autre comme toi-même, tu dois lui donner. Eh bien, le Rambam dit non, tu ne dois pas lui donner. Ce qui est marqué, va chai ben. Donc, ce que. Donc, le ve'aftel rachamocha signifie. Alors, ceux qui donnent donner leur vie pour un autre, lorsque quelqu'un il donne, il fait un. Le soir, quelqu'un qui va. On va dire entre guillemets, donner complètement sa vie, c'est une autre chose. On peut en faire un autre chiot, on va laisser là. Oh. Mais faire un don de soi pour l'autre, vouloir pour l'autre ce que l'on veut pour nous, ça c'est effectivement la mitzvah de Ve'aftal et Racha Kamocha. Moshe Rabbeinu était un homme de tzibour, de klal, un homme qui voulait le klal. Ce n'était pas un homme qui était refermé vers lui-même. Il a donc hérité ce mérite d'avoir, de pouvoir être celui qui va transmettre la Torah. Rabbi Akiva aussi, comme c'est marqué, il était Makil Keilot Berabim. Lorsque Rabbi Akiva a été pris pour ensuite, il a été tué, comme on sait par les Romains, parmi les 10 Chachamim, il était Makil Keilot Berabim, c'est-à-dire qu'il n'était pas resté tout seul dans son Beit HaMidrash, il ouvrait des centres d'études pour tout le monde dans la rue, qu'il y ait beaucoup de monde, et c'est justement à ce moment-là que les Romains l'ont pris et l'ont tué. Bien que le fameux papousse lui a dit « mais tu vas être tué », il a dit « je préfère être tué comme ça », mais c'était son rôle de Rabbi Akiva, où il savait qu'il fallait former Am Israël, le clan Israël. Donc, comme dit aussi Rabbeinu Yerucham, « Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol batorah », qu'est-ce que ça veut dire « zeklal » C'est-à-dire c'est une grande règle, mais aussi, dit Rabbeinu Yerucham, c'est le moyen d'arriver au klal, d'arriver à l'ensemble du Am Israël par « ve'afta l'eracha kamocha ». Donc, revenons et on poursuivra sur une petite profondeur. Donc, ce que nous avons vu, c'est que Shavuot, c'est donc pas une date précise, mais ça dépend de 7 semaines, d'un compte de 50 jours, que la Torah nous a donné cette force de nous préparer. C'est uniquement comme cela qu'on va pouvoir recevoir la Torah, que nous recevons aujourd'hui encore. Chaque génération, chaque année, on reçoit la Torah. Et ceci nous demande un compte de 7, qui est un compte, un travail sur nous-mêmes, un compte, un travail qui est de Ben Adam la Chavero, pour pouvoir arriver à ce klal, à cette entité, ce klal Israël, qui nous permet de recevoir la Torah. Je voudrais rajouter encore une profondeur. Il me semble que déjà, avec ce qu'on a dit, on a répondu donc déjà à toutes les questions. Mais juste une petite profondeur. Que nous dit le Maharal, que les 32 premiers jours de la Sfirat HaOmer, c'est la gématria de Lev, mais la gématria de Kavod. C'est-à-dire que pendant ces 32 premiers jours, l'accent est sur Kavod. Et les élèves de Rabbi Akiva, qui ne se sont pas donnés un Kavod l'un à l'autre, sont morts pendant cette fameuse période de 32 jours, puisque le fameux Lag BaOmer, d'après, pas tout le monde, mais d'après beaucoup, ils ne sont plus morts, ils ont arrêté de mourir le 33e jour. Donc les 32 premiers jours sont liés au Kavod. Après les 32 jours, il nous reste combien? Il nous reste 17. 17, c'est la Gématria de Tov. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que, qu'est-ce que cela veut dire, kavod? La Gemara nous dit, en kavod et la Torah. Comme c'est marqué, kavod ramin chalou. En tov et la Torah, qui les kartov natati lachem. Dire le kavod, c'est Torah. Le tov, c'est Torah. Mais il y a quelque chose encore de plus. C'est que ces fameuses sept midot, comme on a vu, où nous avons les sept dans le bon sens, les Hachem, Agdoula, Vagboa, on a en correspondance les fameuses trois midot que les Chachamim disent Akina, Vatava, Vakavod, Motsim et Adam et Naola. La Kina, c'est-à-dire la jalousie, la Tava, l'envie et le Kavod. La Kina, la Tava et le Kavod sont la contrepartie de Chesed, Gvura et Tiferet. Tiferet, le Kavod. Donc un Kavod mal placé, c'est la recherche du Kavod. Le Chesed, c'est donc la Tava, au lieu de vouloir donner, c'est prendre. Et la Gvura, doit être la force de se retenir, c'est la Kina. C'est ces trois choses-là qui sortent l'homme, parce que c'est justement ces trois choses-là qu'on doit réparer. Chesed, Gvura, Tiferet, les trois premières midot des sept. Le Baal HaMaor, au début de Maseret Brachot, nous dit que dans la Torah, l'âme, dans les psukim, le nefesh est appelé kavod. Il y a beaucoup de psukim. Samach libi veyagel kevodi. Ura kevodi. Leman ezamecha kavod. Leman ezamecha kavod, c'est mon âme. L'âme est appelée kavod. Pourquoi? Parce que l'âme provient, kavod, l'honneur du Kiseh HaKavod, c'est-à-dire de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et comme l'âme a été, on est tous Chelek Eloka Mimal, une partie du Kavod d'Akadosh Baruch Hu, donc l'âme a cette recherche de retourner toujours vers le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Le Nefesh, c'est aussi, comme on voit dans les Psukim, Im Yesh Et Nafshechev, c'est-à-dire cette volonté. Le nefesh kavod, c'est-à-dire une volonté de se rattacher au kavod d'Akadosh Baruch Hu, duquel notre âme vient, et de répandre le kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors écoutez bien, aussi étonnant que ce soit, c'est que le Gaon de Vilna nous dit, vous connaissez le fameux calcul de Atbash, c'est-à-dire que si on prend les lettres de l'alphabet, on met Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et on met les autres à l'envers, Tav, Shin, etc., l'alphabet à l'envers, et qu'on fait une correspondance entre les lettres, eh bien, Tov, c'est les mêmes lettres que Nefesh. Mm. Les mêmes lettres que Nefesh dans Atbash. Les mêmes lettres en correspondance, c'est-à-dire le Nun, il est avec le Tet, comme Bal, Atbash, le Aleph avec le Tav, donc le Bet avec le Shin. Donc Tov, c'est Nefesh. Dans le Nefesh, c'est-à-dire que nous avons dans cette partie de Sfirat HaOmer, elle est divisée en deux parties, les 32 premiers jours et les 17 nièmes, où on doit être métaken. D'un côté, le Kavod, qui va nous permettre, par ces premiers jours, d'être métaken son nefesh, d'arriver à un degré où on a enlevé le mal, et ensuite, on va vers le Chelek Atov. Et aussi, dans une autre... De toute façon, le Rav Moshe Shapira a expliqué un jour que le principe de Atbash, c'est-à-dire Atbash, ce compte-là, est le compte suivant. C'est-à-dire que lorsque un homme qui a une certaine connaissance veut expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas, lui expliquer quelque chose, celui qui reçoit, qui comprend, comprendra en vérité tout qu'une fois que celui qui lui explique aura terminé. Donc lorsqu'il arrivera à la fin, au Tav, c'est là que celui qui est en face comprendra le Aleph, comprendra le début. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas tout fini, il n'aura pas tout compris. Lorsqu'on lui aura tout donné, il aura tout reçu, c'est là qu'il aura tout compris. Donc le Atbash, cette manière, c'est-à-dire que ce que l'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, on le perçoit donc d'une manière à l'envers. C'est-à-dire que tout le Tov qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, lorsqu'il arrive donc en bas, Be'adbash, on se retrouve avec ce nefesh. Donc notre nefesh, qui est aussi le compte, puisque mispar, c'est aussi la même gematria que 380, donc c'est nefesh, c'est-à-dire peshin, c'est 380, nun, mispar, nun. C'est-à-dire que le nefesh c'est quelque chose que l'on doit, dans ce compte de 50, nous allons réparer en deux parties le nefesh, notre âme, qui est un, le kavod, et deux, le tov, et c'est ce qui va nous permettre, une fois qu'on aura étnigen ce nefesh, de recevoir la Torah le jour de Matan Torah. Donc, à travers ces explications-là, nous avons conduit donc au titre de ce shiur qui était « Est-ce que Shavuot, c'est la fête des semaines ou le don de la Torah ?» C'est effectivement le don de la Torah, mais uniquement à travers les 7 semaines, pas qui sont passées, mais que nous gardons, que nous portons avec nous, puisque nous avons travaillé en nous, et nous sommes arrivés avec ces 7 semaines à un résultat. Qui est ce résultat ? Son âme, son nefesh, kavod et tov, et d'être devenu un, tout Am Israël, et de cette manière, on pourra recevoir cette année aussi la Torah à Shavuot.
Merci.
Merci.